Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger.
Chers auditeurs, bonjour. Nous allons vous parler aujourd'hui de la prochaine séance Cinéclic qui aura lieu le mardi 13 mars à 20h à Ciné-Centre. Il s'agit du premier long-métrage de Nicolas Silol que nous connaissons bien à Dreux, n'est-ce pas Christelle ?
Oui, effectivement, Nicolas Silol, nous le connaissons très bien puisqu'il est intervenu à deux reprises déjà pour encadrer des tournages d'élèves. Il sera présent pour nous, avec nous, pour présenter son film et répondre à nos questions et débattre à l'issue de la projection de ce film. Il nous présentera donc son premier film, son premier long-métrage en tout cas, puisqu'il a déjà réalisé deux courts-métrages. Il nous présentera donc Corporate, un long-métrage qui s'inscrit véritablement dans son temps, puisqu'il traite d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Il nous parle du monde du travail, en effet, et il nous dépeint un monde du travail d'une grande violence et d'une grande âpreté. Il s'agit donc d'un thriller social, dans une certaine mesure, puisqu'il met en scène une responsable des ressources humaines d'une grande dureté. On peut dire qu'il s'agit d'une femme sans état d'âme, puisqu'elle règne par la terreur, comme c'est le cas dans de nombreuses entreprises aujourd'hui. On n'éventera pas le pitch du film en précisant que très vite, un des employés en question va aller jusqu'à se suicider. Et qu'à partir de ce moment-là, la carapace de cette responsable des ressources humaines va quelque peu se fissurer. Il s'agit donc d'un portrait de femme également. Cette femme terrible qui va petit à petit voir sa carapace donc se fissurer est interprétée avec beaucoup de brio par une comédienne qui est en train de crever les écrans français. Et il s'agit de Céline Salette. Alors Céline Salette, on l'a vue chez Téchinet dernièrement, chez Audiard, chez Sofia Coppola, chez Bonello, chez Garel, chez Eastwood, enfin voilà, elle a tourné avec une palette de très grands réalisateurs et pas seulement en France. C'est donc une comédienne qu'il faudra, à mon avis, suivre d'assez près dans les années à venir. On peut d'ailleurs regretter l'absence de Céline Salette au César 2018, dont nous allons, je pense, parler très rapidement dans cette émission. Nous pouvons signaler aussi dans le casting une comédienne, là aussi, à suivre. Il s'agit de Violaine Fumeau. Alors, Violaine Fumeau est peut-être plus connue par rapport au monde du théâtre, où elle a beaucoup œuvré, mais elle a déjà tourné dans un des courts-métrages précédents de Nicolas Silol, qui s'appelait « Tous les enfants s'appellent Dominique ». Et évidemment, il faut mentionner Lambert Wilson, qui là aussi nous offre une prestation d'une grande qualité, comme nous y sommes évidemment habitués. Un film qui, a priori, suscitera de nombreuses réactions parmi le public. Je parlais il y a quelques instants des Césars. Peut-être, Sandrine, tu voudrais revenir sur le palmarès des Césars 2018.
Alors oui, Christelle, parmi les lauréats de ces Césars, nous retrouvons de nombreux films dont nous avons parlé dans notre émission. En particulier, deux films qui se détachent, 120 battements par minute, que nous avions évoqué lors de notre première émission, me semble-t-il. Ce film Coup de poing de Robin Campillo, qui reçoit notamment le prix du meilleur film, du meilleur scénario original, mais encore le prix du meilleur espoir masculin pour Nahuel Pérez Biscayart, ou celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Antoine Reinhartz, mais également le meilleur montage et la meilleure musique originale.
Nous avions aussi parlé d'Au revoir là-haut, qui a lui aussi été primé.
Il reçoit le César de la meilleure réalisation pour Albert Dupontel, ou encore la meilleure adaptation pour le livre de Pierre Lemaître, les meilleurs décors, meilleurs costumes et la meilleure photographie.
À noter aussi que Nahuel Pérez Biscayart était aussi à la distribution de ce film.
Tout à fait. Un autre film qui a eu beaucoup de succès lors de nos séances Cinéclic, puisqu'il a fallu ouvrir une deuxième salle, c'est Petit Paysan, qui a reçu le César du premier film, mais également le prix du meilleur acteur pour Swann Harlow et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Sarah Giraudeau. Enfin, à noter notre film d'ouverture, Barbara, de Mathieu Amalric, qui a reçu le César du meilleur son et le César de la meilleure actrice pour Jeanne Balibar, dont le discours était plein de fougue lors de la cérémonie des Césars.
Poursuivons sur les récompenses, puisque le cinéma est à l'honneur ces jours derniers. Cette nuit, en effet, se tenait la cérémonie des Oscars 2018, et un film se détache nettement du lot. Il s'agit de La Forme de l'eau, un film de Guillermo del Toro, qui a reçu 4 Oscars, un premier Oscar pour la direction artistique, un deuxième Oscar pour la musique, composé par un compositeur français, Alexandre Desplat, l'Oscar du meilleur film également, et enfin celui du meilleur réalisateur. Guillermo del Toro n'est peut-être pas très connu en France. Sandrine, est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce réalisateur mexicain ?
Guillermo del Toro est en effet un réalisateur mexicain qui est né en 1964 à Guadalajara. Il a commencé sa carrière par un premier long métrage qui est un film d'horreur qui s'appelle Chronos en 1993 et qui a déjà remporté de nombreux prix, dont un prix au Festival de Cannes la même année, et le fameux Premio Ariel, qui est l'équivalent du César mexicain. Il a continué ensuite avec L'Échine du Diable en 2001, qui se situait en Espagne pendant la guerre civile. On retrouvera d'ailleurs cette même thématique dans Le Labyrinthe de Pan en 2006, où cette fois il est question des maquisards sous le franquisme, qui a valu à Del Toro une ovation de 22 minutes quand même au Festival de Cannes cette même année. On peut donc dire que Guillermo del Toro est un amateur de monstres, puisqu'on le retrouve ensuite avec Hellboy ou encore Pacific Rim et ses célèbres kaiju. Ici, il s'agit également d'un monstre, une créature aquatique que nous allons retrouver dans La Forme de l'eau.
Guillermo del Toro a un univers très particulier, très personnel et très visuellement très fort. Il n'empêche que sous cet univers un peu fantasmagorique, il y a beaucoup de notre monde qui est dépeint par Del Toro et que ses films ont toujours un sous-texte politique assez fort. Est-ce le cas dans ce dernier film ?
En effet, nous disions tout à l'heure pour le Labyrinthe de Pan ou L'Échine du Diable, il s'agissait de l'Espagne et de la dictature. Ici, il s'agit du contexte de la guerre froide et des tensions, bien sûr, entre États-Unis et bloc soviétique.
Alors, avant toute chose, quelques mots du pitch.
La scène se situe pendant la guerre froide, au moment où des généraux américains ont capturé une créature aquatique en Amazonie et qui vont ramener cette créature dans un laboratoire ultra secret où ils vont y mener des expériences pour espérer doubler les Russes, notamment en ce qui concerne la conquête de l'espace. Elisa Esposito est une jeune femme muette faisant le ménage dans ce laboratoire et elle va tout faire pour sauver cet être aquatique des mains des Américains.
En effet, très vite, cette jeune femme semble pouvoir entrer en communication avec cette créature qui ne semble pas si loin d'une certaine humanité, au contraire du fameux Strickland qui apparaît comme un méchant, très méchant. Alors Strickland est interprété par un comédien qu'on connaît bien qui s'appelle Michael Shannon, qu'on avait vu dans un personnage très troublé chez Jeff Nichols dans le film Take Shelter que nous avions passé au clic il y a quelques années. C'est aussi un personnage récurrent de la série Boardwalk Empire. On peut dire, comme disait Hitchcock, plus le méchant est réussi, meilleur sera le film. On peut dire ici que le méchant est effectivement très méchant.
C'est vrai que dès sa première apparition, on sait tout de suite que physiquement déjà, que ça va être lui. Son visage carré, carnassier, montre tout de suite cet aspect abject du personnage qui va bien sûr concentrer tous les défauts.
Ce personnage de Strickland cumule les défauts, nous l'avons déjà dit. Il incarne finalement une Amérique qui est celle des années 50, qui est une Amérique sûre de son bon droit. Il est sexiste, macho, harceleur, il est raciste et incarne donc cette Amérique puritaine, bien pensante, qui se considère très largement supérieure au reste de l'humanité. La question de l'humanité, précisément, est au cœur du film de Del Toro.
Oui, tout à fait. Notamment lorsque Strickland est face à cette créature et qu'il la torture en pensant que ce n'est qu'un monstre. Mais on peut bien sûr se poser la question de la monstruosité. Qui est le monstre dans cette histoire ? Vous l'aurez bien compris que ce n'est pas la créature, mais plutôt Strickland qui est d'une violence extrême. Contrairement au monstre qui, lui, va petit à petit être doté d'une humanité grâce à Elisa, petit bout de femme frêle qui a peu confiance en elle au départ, mais qui va grandir petit à petit au contact de ce monstre et qui va lui donner une humanité, puisqu'elle va l'initier au cinéma, à la musique et aussi au plaisir culinaire et autres plaisirs, plaisir de la chair également, puisque c'est aussi une belle histoire d'amour, il faut le dire. Ce n'est pas un film de monstre, comme on l'entend, mais c'est une ode à l'amour et une ode à la différence.
Nous parlions de l'Oscar de la direction artistique reçue par ce film. On peut parler, en effet, tu l'évoquais, d'une grande sensualité dans ce film, et notamment un grand travail sur la lumière et sur la couleur.
C'est vrai qu'il y a dans le film de Del Toro une grande dimension artistique. On lui reproche parfois cette dimension artistique, on lui dit que c'est un peu baroque, mais il y a toute ce camaïeu de vert dans le film, notamment cette fameuse Cadillac Sarcelle.
Ce travail sur la couleur semble particulièrement en adéquation avec l'élément aquatique qui est lui aussi évidemment au cœur du film.
On pense bien sûr, quand on voit ce film, à de nombreuses influences. Bien sûr, on pense à Jules Verne, mais également à L'étrange créature du lac noir de Jack Arnold. Même si ici, ce n'est pas en Amazonie que ça se passe, mais on ramène le monstre à la maison. La parenté avec la créature du lac noir est criante lorsque l'on voit le costume de la créature aquatique de Del Toro. On peut rajouter que c'est un film sur le cinéma. On a notamment beaucoup de clins d'œil, en particulier à la comédie musicale, avec cette séquence où Elisa retrouve un instant la voix pour chanter et danser les claquettes.
Oui, ce film est un peu une déclaration d'amour au cinéma et à la magie du cinéma. C'est vrai qu'il faut se laisser aller quand on voit ce film. Il faut accepter de lâcher prise et d'être complètement englouti, si j'ose filer la métaphore aquatique, par cet univers qui peut-être dérouter, effectivement, par son côté peut-être un peu chargé, un peu baroque, mais qui, en tout cas, une fois qu'on a accepté de lâcher prise, nous emmène totalement dans un univers assez rafraîchissant.
Pour revenir sur la dimension politique de ce film, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les freaks, les proscrits de cette société américaine, c'est-à-dire les noirs, les handicapés, les homosexuels ou les étrangers, qui vont s'allier pour aider cette créature aquatique. Pour nous quitter, nous vous laissons avec cette magnifique chanson d'amour, La Javanaise, interprétée par Madeleine Peru, que nous retrouvons dans le film de Guillermo del Toro. Bonne semaine à tous!
Pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour?